divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Nous allons ce dimanche faire une émission sur un ouvrage sans doute particulièrement emblématique de qui nous sommes à l'Union rationaliste et de ce que nous voulons y faire. Cet ouvrage, coordonné par Jacques Aïssinski, physicien des particules, bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Hélène Langevin-Joliot, physicienne nucléaire et aussi présidente sortante de l'Union rationaliste.
Bonjour.
Bonjour Hélène. Tous deux donc présents ce dimanche matin à l'antenne de France Culture. Vous avez coordonné un ouvrage intitulé « Science et culture, repères pour une culture scientifique commune » que vous avez publié, que vous venez de publier aux éditions Apogée, maison d'édition de Rennes, dans une collection que je ne saurais que trop recommander aux auditeurs de France Culture. Collection intitulée « Espace des sciences » et dirigée par Michel Cabaret. Collection dont tous les titres sont passionnants, du Big Bang à nos jours, la Lune, vérité et légende, la mesure du temps, le ciel au fil des saisons. Ouvrage explicatif à destination des adultes. Rien d'étonnant donc que le projet de Michel Cabaret ait rejoint des membres éminents de l'Union rationaliste, tant le projet énoncé, permettre au plus grand nombre de s'approprier les sciences, est commun à cette maison d'édition et à l'Union rationaliste. Donc, ma première question, je l'adresse à Hélène Langevin-Joliot. Comment est né ce projet et comment s'est faite la jonction entre l'Union rationaliste et les éditions Apogée ?
Je dirais que sur le plan général, tu viens de dire pour les éditions de Rennes, pour l'Union rationaliste, la culture scientifique est l'un des objectifs majeurs. Et dans un monde où la science joue un rôle de plus en plus important, nous sommes convaincus que cette culture est et sera de plus en plus nécessaire à tous les citoyens, par-delà leur profession et tous leurs intérêts culturels, qui évidemment peuvent être très très différents. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la genèse, le groupe culture scientifique de l'Union rationaliste, qui s'interroge sur ces questions, s'est senti interpellé par les rapports entre culture et savoir. Et nous avons constaté que la culture scientifique est le plus souvent considérée comme une somme de savoirs spécialisés. Chacun en développement accéléré, qui de ce fait ne saurait s'intégrer dans la culture généraliste par nature. Mmh. Nos premiers échanges sur cette question nous ont amené à conclure qu'il y avait là une difficulté réelle et que ça valait la peine d'essayer de contribuer à la faire reculer. La conception du livre collectif qui est sorti de ces réflexions est sorti au fur et à mesure que nous ciblions mieux les objectifs et les difficultés à surmonter. Elle a débouché sur plusieurs approches afin de donner dans un livre court une vision cohérente de la science. Je ne peux pas citer tous, mais c'est un livre collectif, mais il est clair que pour la rédaction, Jacques Aïssinski, ici présent pour la physique, Jean-Pierre Kahn pour les mathématiques, Michel Morange pour
la biologie,
ont joué un rôle très important. Sanchez Palenciane a aidé beaucoup pour dégager des textes. Nous avons voulu un livre illustré et attrayant par sa présentation.
Ce qu'il est.
Oui, nous avons des échos favorables. En somme, nous avons voulu délivrer un outil original et complémentaire, bien évidemment, des moyens très importants qui développent la culture et les savoirs, qui sont d'un côté, eh bien, l'enseignement, naturellement,
l'école,
et de l'autre, les centres de culture, l'université et, de temps en temps aussi, c'est vrai, les médias.
Bien sûr.
La jonction avec l'histoire de l'espace des sciences de Rennes s'est faite tout naturellement. Son directeur était venu nous faire un exposé sur les objectifs du centre de Rennes. Et le livre généraliste que nous souhaitions publier, bien nous avons vu que par sa conception et son niveau, il était clairement de nature à intéresser et les médiateurs et les visiteurs du centre de Rennes, et en extrapolant un peu d'autres centres qui existent en France, bien évidemment. Ça a été le point de départ de la collection chez l'éditeur Apogée.
Très bien. Alors, cet ouvrage, très intéressant, je crois, a diffusé largement auprès, en tout cas, des professeurs, est composé de trois moments. Une première partie sur les principes et les méthodes des sciences et sur l'histoire de l'univers. Une deuxième partie dans laquelle vous vous êtes demandé quelles connaissances de base étaient requises pour une culture générale scientifique. Enfin, une troisième partie particulièrement riche où on peut voir un grand nombre de textes, d'exposés sur l'histoire des sciences. Alors, j'aimerais que vous puissiez éclairer les auditeurs sur ce qui a présidé à vos choix, tout en les explicitant. Jacques, vous pourriez peut-être éclairer les intentions des deux premières parties de ce livre ?
Comme vous venez de le dire, la première partie est consacrée aux principes et aux méthodes scientifiques. Il est clair qu'acquérir une culture scientifique, c'est avant tout, ce qui est le plus important, c'est se familiariser avec la méthode scientifique. De comprendre comment les connaissances scientifiques s'élaborent, comment elles se consolident, comment elles se construisent. Et donc, c'est tout naturellement que ce thème fait l'objet de la première partie du livre. Par méthode scientifique, nous pensons, par exemple, au rôle complémentaire de la théorie et de l'expérience. Nous pensons au fait que savoir scientifique, une avancée scientifique est soumise à l'appréciation des pairs. Tout récit, tout développement théorique ou tout résultat d'expérience doit être décrit suffisamment en détail et de façon suffisamment transparente pour que n'importe quel autre scientifique puisse s'assurer de la véracité et de la solidité de ses avancées.
Alors là, j'en profite pour faire une promotion à l'intention de tous les candidats au bac des sections scientifiques en philosophie qui réfléchissent sur tous les thèmes de cette première partie.
Oui, et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que ces thèmes ne s'appliquent pas seulement aux sciences dites exactes qui font l'objet du livre, mais à toutes les sciences aussi, bien les sciences humaines, les sciences humaines ou les sciences sociales. Ce chapitre comprend aussi, cette partie comprend aussi un chapitre qui est intitulé « Une histoire de l'univers et de la vie », parce qu'il nous est apparu que c'était une bonne façon d'aborder de nombreuses connaissances de façon cursive, de façon assez naturelle, et notamment de nombreuses connaissances qui relèvent de la plupart des disciplines scientifiques, je dirais peut-être hormis les mathématiques qui sont guère touchées dans cette partie-là du livre, mais permet aussi d'aborder des questions récentes, des développements, des acquis très récents dans nos connaissances scientifiques. La seconde partie du livre, qui est peut-être celle qui est le plus étoffée, s'intitule « Des savoirs pour une culture générale ». Nous avons tenté de rassembler de façon synthétique, de présenter, d'offrir de façon synthétique une vue assez générale des différents champs disciplinaires des sciences exactes. Donc, qui vont de sciences de la Terre, sciences de l'univers, jusqu'aux mathématiques, de la biologie à l'informatique. Cette partie-là est écrite en fait à deux niveaux qui se distinguent clairement parce que nous avons utilisé une police différente. Il y a un premier niveau qui rassemble des données relativement élémentaires, fondamentales, sans lesquelles il est difficile de construire par la suite une véritable culture scientifique, c'est-à-dire de s'approprier des résultats nouveaux, de lire des revues scientifiques, ou simplement de pouvoir comprendre un peu quels sont les tenants et aboutissants de débats scientifiques que l'on entend à la radio ou dont on parle à la télévision. Et dans cette partie-là, ces différents savoirs que nous avons retenus, sont présentés sous forme, sont organisés sous forme de rubriques, et nous avons indiqué explicitement comment certaines de ces rubriques étaient en lien les unes avec les autres, parce que la science a une réelle unité, et il est évident que certains développements, certaines connaissances, mettons en biologie, s'appuient sur d'autres connaissances qui proviennent de la biologie, qui proviennent de la chimie, ou de la chimie on peut aller se référer à des résultats de physique, et bien entendu les mathématiques sont présentes un peu partout. Et nous
Avez tout un système de renvoi qui s'appelle lien.
Exactement.
À l'issue de chaque chapitre, vous renvoyez.
Nous suggérons de voir des résonances et qui peut permettre aux enseignants notamment, ou à des conférenciers notamment, de bâtir, d'aborder certaines questions sous un angle pluridisciplinaire. Et aussi, c'est important parce que je crois que ça met bien en évidence l'unité de la science. On aurait pu le développer davantage, mais nous avons fait cela dans ce sens-là.
Ce qui éclaire aussi notre conception de la culture générale scientifique. C'est aussi son unité.
Absolument.
Ouais, très bien. Alors, sur la troisième partie, peut-être, Hélène, vous en diriez un mot de cette longue troisième partie ?
J'en dirais un mot en faisant juste une remarque sur la fin de celle que Jacques vient de faire. Ce sous-titre du livre, Repères pour une culture scientifique commune. Eh bien, la culture commune, l'intérêt d'une culture commune, commune ou partagée, si l'on veut, elle a été fortement affirmée à l'occasion du lancement des nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Ancienne UFM,
comme une nécessité, cette culture commune, pour tous les étudiants se dirigeant vers le professorat ou le métier de l'éducation. Bien sûr, ce livre n'est pas un programme, n'est pas un remplacement, quel qu'il soit, c'est un livre diagonal et nous pensons que, par exemple, des professeurs des écoles intéressés à devenir professeurs des écoles mais ayant purement une formation littéraire peuvent, indépendamment de leurs cours, avoir quelque chose qui permette de leur donner un support qui peut être précieux par la suite. J'en viens au troisième partie du texte. Évidemment, nous aurions voulu développer sur certaines questions. Et on a choisi, dans une partie des textes, on est revenu sur certains points précédemment introduits dans les parties 1 ou 2, notamment sur des concepts très importants et en même temps très difficiles. La causalité, par exemple, le déterminisme, la nature de la connaissance à travers un exemple. Qu'est-ce que l'informatique dont tout le monde parle ? Et finalement, qu'est-ce que c'est ? Et puis, l'autre partie relève de l'histoire des sciences. Nos ambitions ont été finalement à la fois importantes en choisissant deux textes. Un de Paul Langevin sur la valeur éducative de l'histoire des sciences, l'autre d'Ernest Kahn sur une célèbre controverse très instructive entre Claude Bernard et Louis Pasteur. L'histoire des sciences est un stimulant puissant pour s'intéresser à la science et peut aider énormément à comprendre la construction de la science et la science elle-même. Nous aurions voulu faire plus et peut-être ferons-nous plus tard, mais l'histoire des sciences est quelque chose de difficile pour trouver le bon équilibre entre, disons, l'anecdote amusante mais totalement réductrice et une histoire des sciences de spécialistes qui effectivement ne correspond pas à notre approche. Les livres doivent pouvoir être lus très largement par tous ceux qui souhaitent s'y intéresser.
Oui, alors là, moi, je trouve que cet ouvrage, ce court ouvrage, Sciences et culture, repères pour une culture scientifique commune, parvient véritablement à inciter à la lecture d'exemples d'histoire des sciences absolument passionnants. On ne lâche pas le livre et en même temps à être incroyablement pédagogique. D'où ma recommandation chaleureuse auprès de nos auditeurs pour les inviter à demander ce livre qui se trouve facilement, question, dans les librairies ou pas du tout.
Il est en librairie, diffusées des éditions Apogée ont un accord avec les presses universitaires et il est en librairie. Il peut se trouver, pour ceux qui vont jusqu'à la rue de l'École Polytechnique à Paris,
à
l'Union Rationaliste, on en trouvera là et on peut les commander
aux éditions Apogée
ou ailleurs en ligne, bien sûr.
Bon, dernière question à vous deux, amis de l'Union Rationaliste. En quoi et pourquoi, selon vous, la culture générale scientifique est à la fois déterminante et exaltante ?
Elle est déterminante, je pense, parce que pour notre rôle de citoyen et pour la population tout entière, nous sommes confrontés, comme chacun sait, à de nombreux problèmes sociétaux et à l'échelle du monde qui demandent un minimum de connaissances scientifiques pour s'orienter et saisir les tenants et aboutissants essentiels des problèmes qui se posent à l'humanité. Et elle est manifestement exaltante pour moi du fait que c'est cette culture qui permet d'avoir accès aux résultats des recherches qui apparaissent presque quotidiennement. La science, la recherche a un dynamisme actuel qui est absolument extraordinaire. Ce que l'on découvre dans des domaines très divers, que ce soit à l'astrophysique, à la biologie ou fonctionnement du cerveau. Si on veut pouvoir comprendre l'intérêt de ces recherches en cours, je crois qu'il faut avoir une certaine culture scientifique.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Jacques Jasinski, Hélène Langevin-Joliot, je vous remercie. Je remercie Dany Journeau et Emmanuel Dupuis qui ont rendu possible cette émission. Le prochain colloque de l'Union Rationaliste aura lieu le samedi 13 juin 29 rue d'Ulm de 9h à 18h et il portera sur la démarche scientifique face aux certitudes. Jacques Jasinski était déjà venu à l'antenne de l'Union Rationaliste nous parler d'une culture scientifique générale avec François Nolin. Et cette émission est publiée dans les Cahiers Rationalistes de mars-avril 2013. Je rappelle le titre de cet ouvrage passionnant, « Science et culture, repères pour une culture scientifique commune » aux éditions Apogée. Et je vous dis au mois prochain.